Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Et dans le cadre de la semaine Green au sein du groupe RTL M6, semaine de mise en valeur des sujets environnement et climat, eh bien je voulais consacrer ce podcast au plastique.
Depuis la semaine dernière, la plage de Kerguelen est souillée. Ludivine, architecte d'intérieur, Nicolas, son mari, ingénieur, et Naël, leur fils, 11 ans et demi, ont passé l'après-midi les mains dans le sable.
En fait, il y a eu un échouage de microbilles de plastique qui arrive certainement dans un container perdu en mer, on ne sait quand. Donc on essaie d'en ramasser un petit peu, mais ouais, c'est un peu d'épée dans l'eau, je pense.
Des plages du Finistère à la Vendée, couvertes de billes de plastique, ces granulés servant de matière première à la fabrication des objets de notre quotidien. Mais pourrait-on se passer de plastique? Et si oui, comment? C'est ce que je voulais voir dans ce focus avec Juliette Franquet, directrice générale de l'association Zero Waste, comprenez zéro déchet. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et avec aussi une journaliste qui a goûté à la vie sans plastique comme un défi à l'époque pour l'émission Envoyée spéciale. Bonjour Raphaël Shapira.
Bonjour.
Aujourd'hui installée à Rome pour France Télévisions. D'abord, je vais me permettre de tutoyer. Ici, c'est la règle dans ce focus, tutoiement à la ville, tutoiement dans le podcast. Je t'ai demandé d'intervenir ici parce que ton reportage à l'époque d'Envoyée spéciale m'avait beaucoup marqué. On va en réentendre des extraits et tu vas nous dire où tu en es 4 ans après. Juliette Franquet, d'abord, je voudrais qu'on fasse un état des lieux avec vous. Est-ce qu'on est capable de chiffrer aujourd'hui la consommation plastique moyenne d'un Français ?
J'ai pas le chiffre, malheureusement, pour la consommation d'un Français. Et c'est une information qui est assez difficile à avoir. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la production de plastique dans le monde. Et on sait que c'est plus de 400 millions par an.
400 millions de tonnes ?
Exactement. Qui est produite par an. Et on sait surtout que le plastique est partout. Il est, on le voit directement quand on prend un emballage, quand on utilise un stylo, etc. Mais c'est aussi dans le textile, c'est aussi dans tous les produits, même d'ameublement. C'est un matériau qui s'est immiscé partout dans notre quotidien.
400 millions de tonnes aujourd'hui, ça a été exponentiel au fil des années ?
Tout à fait. En fait, il faut rappeler que le plastique, c'est pour beaucoup issu des énergies fossiles. Donc ça date seulement depuis quelques décennies, l'effervescence du plastique. Depuis 1950, il y a eu à peu près 9 milliards de tonnes de plastique produites. Et le problème, c'est qu'on continue à produire de plus en plus de plastique et surtout que la durée d'utilisation de chacun des matériaux est de plus en plus faible. Donc sur ces 9 milliards de tonnes de plastique produits depuis 1950, il y en a seulement 24% qui sont toujours en utilisation. Et il y a une espèce de mirage sur le recyclage, parce qu'en fait, depuis donc autant de décennies, même pas 10% a été recyclé. Donc c'est absolument nécessaire aujourd'hui de réduire la production de plastique pour qu'elle arrête de contaminer notre quotidien, à la fois pour des raisons environnementales, mais aussi de santé.
Vous l'avez dit, pour pouvoir le faire sortir de nos vies, il faut déjà avoir conscience de son omniprésence jusque dans nos textiles, donc nos vêtements. Vous l'avez dit, le sujet est extrêmement vaste et c'est pour ça qu'on va s'intéresser à la vie sans plastique dans la cuisine en particulier. D'ailleurs, toi Raphaël, c'est par le frigo de ton appartement que commençait ton reportage dans Envoyé spécial.
La bouteille d'eau
C'est pas de la... Je la réutilise.
D'accord, ok.
Voilà, ça me sert de carafe.
Très bien. Le mieux, c'est peut-être de passer sur un emballage en verre.
Dans mon frigo, je découvre aussi le plastique caché.
Sur du verre. Là, du coup, on a l'impression que c'est du carton, mais donc le Tetra Pak, il y a 3 couches. Il y a le carton, il y a l'alu et il y a un petit film de plastique aussi
donc,
dans les Tetra Pak. Donc, il
faut qu'il sorte de mon frigo aussi.
Oui,
c'est ça. Hein.
Adieu le gazpacho. La barquette de fraises achetée chez le producteur local et bio. Ou ce que je pensais être le papier de la bonne boucherie du coin.
Et ensuite, c'est aux ustensiles de cuisine que tu t'étais attaquée.
Les couteaux avec un manche en plastique n'ont plus leur place chez moi. Il y en a déjà en métal. Fini aussi les spatules ou pinces en plastique.
Oui, mais alors ça, c'est parce que c'est pour éviter que ça raye les poils.
Oui, le bois marche aussi très bien.
Ouais. Pas d'excuses. Si ça existe dans une autre matière, dehors.
À ce moment-là, tout ce qui contient du plastique est entassé sur la table de ta cuisine, Raphaël. C'est assez impressionnant. Est-ce que ça, symboliquement, cette étape-là, elle a été importante ?
Ben, elle est fondamentale parce que c'est en comprenant la quantité, la masse et surtout, comment dire, l'imprégnation du plastique dans, dans notre vie qu'on comprend en fait le défi qu'on nous demande de relever. C'est-à-dire qu'en fait, ça entre extrêmement facilement le plastique dans la maison. Et alors maintenant, beaucoup moins chez moi, mais à l'époque, j'avais absolument pas conscience de, vous savez, le truc, on se rachète une spatule, on se rachète, enfin, c'est la quantité de doublons, en fait. Et la présence du plastique partout, dans toutes les petites choses cachées. Donc, en fait, entre les doublons et tout ce qui est, tout le plastique qui est planqué, ça fait une quantité énorme. Et tant qu'on n'a pas fait cet inventaire-là, on ne mesure pas, la présence du plastique dans nos vies.
Ce qui est marrant,
et à quel point c'est important.
Et ce qui est marrant quand on t'entend quand même aussi, c'est qu'il y a une forme de résistance au départ. Oui, mais là, la bouteille, en fait, c'est une carafe, je la remplis. Oui, mais là, ça me sert pour pas rayer. On est tellement habitué qu'on se dit, non, mais ça, je peux pas m'en passer.
Mais il y a à la fois ça, et il y avait à l'époque aussi pour moi un étonnement. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'étais pas une mauvaise élève. Moi, j'avais l'impression que, en fait, je faisais très attention, que je fais mes courses pas au supermarché dans des trucs suremballés. Voilà, j'avais l'impression que j'avais quand même fait déjà beaucoup d'efforts, en fait, que je faisais, que j'étais plutôt vertueuse. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai commencé le sujet, je pensais être vertueuse. Et puis, au bout de quelques jours, en fait, j'étais catastrophée, quoi. Et j'étais catastrophée, notamment, en voyant ça de plastique, en me mettant à essayer de vivre sans et de me rendre compte à quel point mon quotidien est semé d'embûches, quoi, est semé de plastique. En fait, à chaque fois que j'essaye de ne pas en amener chez moi, et ben en fait, j'en rencontre. Donc ça a été un truc vraiment vraiment important.
Et ce plastique dans la cuisine, il ne pose pas que la question de la pollution, il pose aussi la question de la santé. En juin 2022, l'association Agir pour l'environnement, qui avait testé les eaux plates et gazeuses les plus vendues en France, révélait que 7 bouteilles sur 9 contenaient des microplastiques, comme l'expliquait Armel Lévy pour RTL.
Polypropylène, polyéthylène et PET, ce sont les principales microparticules de plastique retrouvées dans les eaux en bouteille, certes dans des proportions infimes, mais Magali Ringaud d'Agir pour l'environnement demande l'interdiction des bouteilles en plastique.
Ça, pour nous, c'est un scandale parce que on pense acheter une eau pure et bien finalement, elle contient du plastique.
Juliette Franquet, il y a un risque de contamination de nos aliments, de nos boissons par le plastique ?
Oui, tout à fait. Y a des études qui commencent enfin à sortir, qui montrent que en fait le matériau du plastique il se dégrade et au contact de l'eau ou de l'alimentation en particulier, il peut y avoir des transferts. Malheureusement, on attend qu'il y ait plus de recherches sur le sujet pour pouvoir faire des corrélations directes sur les impacts sur la santé. Mais c'est vrai que c'est très inquiétant. Parce que ce matériau est partout et qu'il a des impacts sur la santé de l'homme, en plus de l'environnement.
Raphaël, toi, pour être clair, à l'époque où tu t'es lancé dans ce défi « Ma vie sans plastique » pour ce reportage pour Envoyé spécial, en gros, tu as tout mis à la poubelle ou mis à la consigne, que ce soit les tupperwares, les ustensiles, donc on en a parlé, tu as dû tout revoir.
Alors j'ai tout revu, c'est-à-dire que j'avais fait deux tas. J'avais fait le tas de ce que je pouvais jeter pour le reconditionner et le tas de ce que je mettais de côté pour tenter de vivre sans plastique. Aujourd'hui, moi je n'utilise plus du tout, par exemple, de boîtes en plastique pour contenir mes aliments. J'utilise plus, je ne réutilise pas la bouteille d'eau minérale pour mettre de l'eau dedans. Tout ça a complètement disparu, quoi. Donc il y a des fondamentaux en fait que j'ai vraiment gardés de cette époque-là pour essayer de vivre sans et qui sont pas si compliqués à mettre en œuvre au quotidien en réalité.
Même pour faire les courses, justement parce qu'on te voit aussi dans le reportage avec du verre, ces contenants en verre pour aller chez le poissonnier, à la boucherie, etc. Où à la fin ton sac commence à peser lourd aussi. Ça aussi, tu l'as conservé.
Alors. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé certaines boîtes en plastique pour faire des courses. Et donc, mes aliments sont très peu en contact avec le plastique et jamais en étant chauffés. Donc, j'ai gardé, après le reportage, j'avoue que les courses avec des bocaux en verre en permanence, c'est quand même une bonne galère. Donc, j'ai opté pour, j'ai gardé les trucs en plastique, non plus pour conserver dans le frigo ou réchauffer, mais pour transporter les aliments depuis chez les commerçants à chez moi.
Juliette Franquet, vous accompagnez, vous, aujourd'hui, vous avez le sentiment que de plus en plus de Français se tournent aussi vers le sans plastique, qui a une curiosité, mais qui a l'impression que c'est une montagne et qu'on ne sait pas par où commencer.
Oui, tout à fait. Nous, notre association a pour but de réduire les déchets, et c'est vrai que le matériau plastique pose question, et en plus de ça, le plastique à usage unique. Il y a deux sujets, en fait. Il y a à la fois le fait qu'on utilise une seule fois, et du coup, il y a un grand impact environnemental sur la production de ce plastique qui va être utilisé quelques secondes et qui va finir en déchets qu'il va falloir traiter. Et du coup, on travaille à la fois pour accompagner les citoyens. Donc, on a un programme qui s'appelle le Défi Rien de Neuf et qui incite les citoyens et les citoyennes à repenser leur mode de consommation en leur proposant des alternatives, que ce soit pour l'emballage, que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour l'aménagement de la maison. Donc, vous avez parlé, par exemple, du frigo, comment bien entretenir un frigo. Enfin, ça va vraiment de la petite cuillère en plastique jusqu'à son congélateur. Donc, on fait vraiment un travail pour essayer de montrer que les alternatives sont possibles. On essaye aussi de créer un peu de joie et de fierté à repenser son modèle de consommation. Après, on est une association militante qui travaillons aussi pour qu'il y ait des changements structurels, pour que justement ces alternatives soient plus accessibles aux citoyens et citoyennes. Et on rappelle toujours que c'est vrai que ça peut être difficile aujourd'hui de changer de comportement si les choses sont plus chères, si elles sont plus loin de chez soi. Donc notre rôle, c'est de montrer ce qu'il y a en place et de pousser en fait la loi et les grandes entreprises à développer des offres qui soient plus adaptées pour que tout le monde puisse changer de comportement.
Mais il y a de la pédagogie aussi à faire. J'avoue que moi, j'avais découvert à l'époque que dans les Tetra Pak, pour le coup, l'une des couches était en plastique.
Oui, il faut faire beaucoup de pédagogie et c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent paraître très compliqués parce que en plus, on entend un peu tout et son contraire. Parfois, on nous dit que le papier recyclé est mieux que le plastique ou l'inverse. Il y a des études qui essayent de calculer l'impact environnemental et en fonction des critères choisis, est-ce qu'on va étudier le CO2 émis ? Est-ce qu'on va étudier l'impact sur la biodiversité ? Est-ce qu'on va prendre une hypothèse qu'un produit va être réutilisé 10 fois ou 100 fois ? Donc, c'est des calculs en fait qui sont très techniques et très scientifiques et c'est assez peu accessible au grand public. Après, nous, ce qu'on aime toujours rappeler, c'est que le plastique de base est mauvais pour l'environnement et ce qu'il faut, d'une manière générale, quels que soient les matériaux, c'est allonger la durée de vie. Et pour qu'il y ait un changement systémique, il faut qu'il y ait des lois et il faut que ces lois soient appliquées. Et comme vous parliez tout à l'heure de la cuisine, nous, on a beaucoup bataillé sur l'emballage des fruits et légumes. Et donc, il y a 2 ans, il y a eu une grande loi qui avait pour vocation de mettre fin au plastique à usage unique de tous les fruits et légumes. Et on s'est beaucoup battu parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêts d'organisations qui avaient du mal à changer leurs pratiques, qui avaient des intérêts financiers à garder le plastique, qui reste un matériau moins cher et qui a ses avantages en termes de transport, etc. Et nous, notre but, c'était vraiment d'accélérer la transition parce que s'il n'y a plus de plastique à usage unique qui emballe nos concombres et nos brocolis, ça va forcément aider tous les citoyens et citoyennes à réduire leur consommation de plastique.
Et vous avez évoqué l'un des arguments massus du plastique, c'est son coût. C'est un produit peu cher et forcément, passer au sans plastique, tu l'avais montré, Raphaël, dans ton reportage, ça a aussi un coût.
Ça fait 62,60 €, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais du coup, donc, ma vie sans plastique démarre déjà par 60 € de dépenses.
Alors là, il y a des choses qu'on a. C'est un petit investissement, mais typiquement, les carrés démaquillants, ça remplace 5 ans de coton jetable. Pareil pour les sacs à vrac, on les achète une fois et après, on n'a pas besoin de les racheter. Et le reste, de toute façon, c'est des choses qu'on a besoin d'acheter avec ou sans plastique. Ouais. Donc,
Alors, 4 ans plus tard, Raphaël, est-ce que c'est plus cher, moins cher, la vie sans plastique dans ses courses au quotidien ou c'est équivalent ?
Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que... ce qui est vrai, c'est qu'elle avait parfaitement raison sur les cotons. J'en ai quasiment plus racheté. J'ai une cousine qui m'a offert des petits des petits carrés démaquillés en tissu que j'ai encore, que je lave régulièrement. Donc ça, j'avoue, c'est un très bon investissement. Après, pour le reste, ce qui est un peu difficile, c'est que bien souvent, alors c'est de moins en moins le cas, mais bien souvent, les lieux où vous pouvez faire des courses en vrac, où on peut faire des courses en vrac, c'est souvent des lieux où les produits eux-mêmes sont un peu plus haut de gamme. Donc c'est du Made in France, c'est du vegan, c'est du... Bon, c'est tout un tas de petites choses qui font que le produit super basique qu'on achetait autrefois au supermarché dans son emballage plastique, et ben en fait, on n'en trouve pas totalement son équivalent en vrac. Au même prix, parce qu'en réalité, ça devrait être moins cher puisqu'il n'y a pas l'emballage. Donc, quand on est dans des grands supermarchés, hypermarchés qui font un peu de vrac, etc., et qu'on trouve la même référence ou à peu près, donc là, ça va, on s'y retrouve. Mais bien souvent, pour trouver le truc en vrac, bah, il faut aller dans des boutiques, et c'est des boutiques bio, et c'est des trucs. Donc, on n'a pas tous les moyens et la possibilité de le faire. Et après, l'autre problématique, l'énorme différence, c'est qu'il y a beaucoup moins de magasins en vrac que de magasins avec emballage. Donc, en réalité, au-delà même du prix, il y a aussi une accessibilité. C'est-à-dire que même sur une rue de centre-ville, là où il y a 5 magasins où on peut acheter des choses emballées, eh ben, il y en a un où on peut acheter des choses en vrac. Donc, à la fois sur le prix et à la fois sur la possibilité de trouver, c'est quand même vachement plus difficile que d'acheter avec du plastique.
Juliette Franquet.
Effectivement, nous, on entend que pour certaines personnes, c'est difficile de changer de comportement parce que ça coûte plus cher. C'est pour ça que pour nous, le combat le plus important, il est au niveau politique. Parce que par contre, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que les dégâts de la pollution plastique, elles sont énormes au niveau environnemental, mais aussi au niveau financier. L'ONU, par exemple, estime à 13 milliards de dollars par an de coûts dus à la pollution plastique dans les océans. Et en fait, on paye tous des impôts pour la gestion des déchets. Donc indirectement, c'est nous aussi qui payons le fait qu'on va devoir aller essayer de dépolluer toutes les terres, les eaux et même l'air qui est pollué à cause de la production de plastique.
Merci beaucoup Juliette Franquet, directrice générale de l'association Zero Waste, de nous avoir accompagnée dans cet épisode de Focus. Merci à toi aussi Raphaël Shapira, journaliste installée à Rome pour France Télévisions. L'Italie d'ailleurs, en termes de lutte contre le plastique, ça se passe comment? C'est plus compliqué comme en France?
Eh bien, ce qui est vachement intéressant, c'est que ça rejoint ce que disait Juliette, c'est-à-dire qu'en fait ici, on a très tôt traité le plastique. Mais sauf que maintenant, il y a tout autant d'emballages, mais c'est des emballages genre recyclables ou avec de l'amidon, les sacs en amidon de pommes de terre, ce genre de trucs. Et en fait, c'est tout aussi pourri, quoi. Enfin, pas tout aussi pourri, mais c'est quand même pas terrible. L'idée, c'est quand même de se passer d'emballages tout court et de se passer de déchets. Et moi, j'ai réaugmenté ma consommation de déchets depuis que je suis ici. Par rapport à celle de Paris. En plus, je connais moins bien la ville, donc forcément, j'ai moins de petites adresses pour m'orienter et tout ça. Mais malgré tout, je vois bien que dans les supermarchés, il y a énormément d'emballages. On distribue les sacs jetables à la caisse, par exemple. Alors, c'est des sacs en amidon, je sais pas quoi là, mais c'est quand même un sac plastique, quoi. Enfin, c'est quand même un sac jetable, en tout cas. Voilà, c'est ça, c'est un sac jetable.
Juliette Franquet, les sacs en amidon, justement, ils sont réellement biodégradables et ils disparaissent ou vraiment on cherche à se donner bonne conscience avec ces sacs-là?
Il y a beaucoup de fausses bonnes solutions, on appelle ça dans le jargon, à propos du plastique et encore une fois, et de l'usage unique. C'est les deux sujets. Donc le plastique à usage unique rassemble les deux sujets et c'est un peu le pire du pire, si vous voulez. Le terme biodégradable, il veut tout et rien dire. Si c'est combien de temps le matériau va se dégrader et est-ce qu'il va pas aussi dégrader l'environnement autour? Le terme biodégradable est souvent à prendre avec beaucoup, beaucoup de précautions. Et effectivement, le meilleur, ce sera toujours le déchet qui n'existe pas. Donc c'est aussi le produit qui n'existe pas. Donc il vaut mieux acheter en vrac, il vaut mieux acheter consigné. Et encore une fois, c'est quand on aura une offre de service sans emballage que tout le monde pourra changer de comportement d'achat.
Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.